Merci. Vaste sujet. Mais simplement, je vais commencer en vous disant une toute petite chose. Vous avez, à cette même tribune, deux anciens combattants et encore engagés dans le développement local, puisque Paul Houé et votre serviteur ont été coprésidents fondateurs de l'Association nationale pour le développement local et les pays. Mais porte, je vais dire moi d'abord aussi, un tort, celui qui était de transformer la démarche de développement en développement local, en oubliant la double réalité du rural et de l'urbain, puisque les dynamiques de développement local sont nées de la nécessité de faire face au futur, et à un futur qui vivait d'un passé un peu compliqué, pour regagner du développement. Et que nous avons été à l'origine des réflexions sur le développement local, urbain, états généraux du développement local urbain de Poitiers. Et qu'en parlant plus que de développement local, on a contribué à n'exprimer plus qu'une technique, une mécanique de fonctionnement, un territoire, un projet, une démarche participative. Fondamentale parce que c'est la réalité des choses. Mais on a en même temps un peu dématérialisé le vécu des personnes. Et cette interrelation entre le rural et l'urbain avec lequel on vit, souvent et de plus en plus, dans une logique de dominance de l'urbain vers le rural, parce qu'on en est en fait, en France et en Europe aussi, on est impressionné par la course aux moyens. Par une course aux moyens dont on nous dit qu'elle ne peut exister qu'à partir du moment où on a des masses critiques suffisantes, et que ce sont les masses critiques qui organisent les possibilités de développement, et là aussi on est impressionné par une autre chose, c'est le constat en oubliant que le politique c'est l'organisation de la cité. Et que l'on peut agir sur les évolutions, on n'est pas condamné par les statistiques. Ce sont des indicateurs dont il faut savoir tenir compte. Ensuite, on a oublié une chose importante et on a vu ce que ça a donné lorsqu'il s'est agi de parler de la Constitution européenne, aujourd'hui du nouveau traité de Lisbonne maintenant. C'est que le traité de Rome parlait bien de la diversité des cultures, même si on a organisé la communauté économique européenne, et qu'on a cru à un moment donné que l'Europe sociale pouvait complètement se fondre dans un fonctionnement de communauté économique européenne. Le nouveau traité, même si on a eu l'évolution vers l'Union européenne et énormément de choses importantes, intéressantes qui ont été construites, merci Monsieur Delors d'avoir porté cette ambition européenne qu'on aimerait encore trouver aujourd'hui portée, et avec des solutions, et bien tous ces éléments-là font qu'à un moment donné, plus on avance, parce qu'on a oublié qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, on avance tout doucement en regardant ce qu'on nous propose et en oubliant ce que nous avons construit. Leader, qui nous revient sous forme aujourd'hui d'un guichet pour financer à côté d'autres. Leader, c'est imprégné de la logique du développement local français. Et ce sont les Anglo-Saxons qui l'ont fait vivre. Mais l'ont fait vivre avec intelligence parce qu'ils nous ont appris à parler d'interrelation entre le public et le privé. Et ça, ils ont apporté, il y a eu une plus-value forte par rapport à ça. Sauf que leader, c'est une démarche d'essence française aussi, portée par le développement local. Merci, monsieur Pachyanide, et on travaille beaucoup ensemble, donc rien n'est étrange par rapport à ça, de nous réapprendre dans l'exemple italien ce que nous avons aussi construit en France et qu'on est en train d'oublier de toutes les manières. Sous présidence française, on a eu une réunion qui parlait de cohésion territoriale. Cohésion territoriale, un mot français, une idée française que les Européens aujourd'hui essayent de comprendre et à laquelle les Européens essayent de donner du sens. Et ils m'ont dit, Danuta Hübner, en décembre, mais vous m'aviez bien dit qu'en France, il y avait une pratique, une histoire sur le développement local, territorial, qu'il y avait des lois, qu'il y avait des outils, qu'il y a eu des procédures, on n'en a pas entendu un mot. En avril, c'était en avril je crois, un colloque de la DIACT, donc moi j'ai du mal à dire la DIACT, il faut que je réapprenne à dire la DATAR, mais un colloque de la DIAC qui était là pour parler de l'interrelation entre le rural et l'urbain. Et pendant tout ce séminaire, on ne nous a simplement expliqué, statistiques à l'appui, échanges et débats, que le rural et l'urbain, c'était la même chose, passant à autre chose, la métropolisation. Je suis intervenu à la fin en leur disant, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de la valeur ajoutée, puisque c'est l'objectif de ce séminaire, de l'interrelation entre le rural et l'urbain ? Un peu de gêne dans la salle, mais beaucoup de personnes qui sont venues devant moi pour, à la fin de la réunion en disant « oui, ça nous intéresse, y compris dans les réflexions sur la métropolisation, parce qu'il faut qu'on donne du sens à tout ça ». Alors, je ferme la parenthèse de ce propos introductif, mais il m'apparaissait important de le souligner. Avec ruralité, environnement et développement, depuis le départ, on a une vision pragmatique. La ruralité, c'est la ruralité. L'urbain, c'est l'urbain. Mais la ruralité sans l'urbain et vice-versa, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, on est au cœur de la réalité européenne. La réalité européenne, avec un espace européen partout habité, espérons qu'il le sera encore, eh bien, c'est une réalité de rural et d'urbain. Et la diversité des cultures dont le traité de Rome parle et dont le nouveau traité donne un sens opérationnel maintenant aussi, eh bien, elle est faite de ces réalités-là. Diversité des territoires, diversité des cultures, diversité des approches, mais on est quand même bien réunis par une réalité européenne et par une réalité européenne qui porte cette dimension et qui trouve des expressions très concrètes, des attentes très concrètes dans l'ensemble des pays émergents du monde. Donc nous, on exprime ça. Et puis on se rend compte que si on donne un sens opérationnel à tout ça et qu'on rapproche ce dont je suis en train de parler avec toutes les pratiques de coopération décentralisée dont on a l'impression qu'elles fonctionnent à côté du monde et pas dans une démarche construite du monde et d'un monde solidaire qui permet l'émergence, parce que ce que j'ai appris aussi en économie, c'est qu'on passe pas de l'attraction humaine à l'attraction mécanique en ayant oublié l'attraction animale. Il y a des étapes dans les économies, c'est une image concrète. Si on grille les étapes, on est complètement déstructuré. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires de prendre en considération. Alors, comme je commence à avoir quelques années, j'ai aussi participé aux travaux sur le GEM, groupe de mobilisation des espaces ruraux. Et je disais à Madame Cresson, qui en avait été l'initiatrice à ce moment-là, puisque c'est l'État qui prend cette initiative, s'il vous plaît, dites-nous quelle est votre attente du rural ? Parce que si c'est simplement pour nous dire qu'il faut qu'on accompagne les ruraux parce que c'est dans le paysage, à mourir plus lentement ou à être endormis par quelques moyens qui leur donneront l'illusion d'exister, ça ne peut pas nous satisfaire. La même chose, je l'ai redite lors de la loi sur les territoires ruraux. Mais là, en allant un peu plus loin, en donnant du sens. Je n'en ai pas retrouvé l'expression, et pourtant la loi, d'une certaine manière, l'organise. Mais surtout, depuis qu'on fonctionne avec RED, on s'est engagé dans un lobbying, allez, un mot anglais, dans un lobbying proactif avec la Commission pour qu'il y ait une prise de conscience opérationnelle sur cette réalité rurale et la valeur ajoutée pour l'Union européenne d'un fonctionnement rural-urbain, donc intégré, qui libérerait l'envie de faire, la possibilité de faire, les initiatives et les énergies. Premier élément, quand on est en train de dire ça, puisqu'on ne nous parle que de masse critique, nous avons eu à cœur de faire prendre conscience que le rural, c'était pas le rural qu'on laissait à la perception uniquement des ruraux, mais que l'ensemble des petites villes dont on parlait, l'ensemble des espaces, des territoires où il y a une réalité d'espace, tout ce tissu-là, c'est de la ruralité. Et on a bousculer un petit peu, pas les seuls, on n'a pas été les seuls à le faire, l'OCDE pour qu'elle nous donne des chiffres opérationnels par rapport à ça. Et je vous les livre, parce qu'ils courent. On ne les entendait pas à la DG Régio, mais on les entend à la DG Agri, ils commencent à être repris et l'OCDE les défend. Les territoires à dominante rurale, c'est 92% de l'espace communautaire. C'est 53% de l'emploi. Même si l'emploi issu de la sylviculture et de l'agriculture, est faible dans ces rapports, c'est 53% de l'emploi. C'est 56% des habitants, pas que 20%. Et c'est surtout 45% de la valeur ajoutée de l'Union européenne à 27. Quand on commence à voir des réalités de ce type-là, on peut commencer à causer à un moment donné, parce qu'on représente une masse critique. Et quand moi je livre ces chiffres dans les territoires ruraux, inutile de vous dire que tout le monde les reprend, parce que ça donne une envie de faire, une possibilité, ça montre qu'on n'est pas parti au 50e dessous, où on est en dehors, out, territoire dépassé, territoire du passé et sûrement pas de l'avenir. Premier élément. Deuxième élément, si les ruraux ne parlent pas d'urbanité, eh bien ils vont continuer à s'enfoncer parce que la principale difficulté, c'est que les ruraux ne croient pas à leur possible développement, à leur possible existence. On a tellement tout cloisonné. Moi, quand j'ai fait mes humanités, il y a un livre que j'ai lu facilement parce qu'il était tout petit, « Docteur Gentil, guérir la vie », dans les hôpitaux psychiatriques, en disant « c'est la sectorisation qui casse tout, qui crée les véritables difficultés ». Et cette sectorisation, on la vit, on ne travaille plus qu'avec les ossatures dans les territoires ruraux et puis avec le lien social qui leur donne du corps, les échanges entre les personnes en même temps qu'entre les territoires. Je ferme cette parenthèse. Comment on l'a organisé à l'échelle de l'Union européenne, puisqu'on sait vivre avec cet adage « étoile, le ciel t'aidera » aussi. Hein ? Eh bien, on s'est dit « il faut qu'on s'attaque ». Il y a deux directions générales qui sont importantes pour nous. La direction générale aujourd'hui de l'agriculture et la direction générale du développement régional, la DG Régio. Il ne faut surtout pas que ces deux DG travaillent séparément. Or, on a constaté qu'elles avaient du mal à communiquer entre elles. Il y a quelque part une nécessité qu'à l'échelle de la Commission, il y ait plus de transversalité entre les DG. Mais on les a associés dans des groupes de travail en disant « il faut que nous, on exprime le souci d'avoir une politique de développement rural à l'échelle de l'Union européenne, qu'on lui donne du sens et du cœur, la faire apparaître comme étant une réalité de la consistance, et on peut dire qu'on a obtenu ça, mais en veillant à ce que cette politique de développement rural, elle s'inscrit dans une logique de cohésion territoriale. Parce que si c'est que du développement rural sans cette logique de la cohésion territoriale qui était en train d'apparaître, ça serait compliqué. Et ce propos que je suis en train de vous tenir, il fallait lui donner une expression. Eh bien, ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années qu'on lui a donné un visage qui a surpris au départ, en disant « les territoires ruraux, ce ne sont pas des espaces naturels et agricoles ou naturels et ruraux. Ce sont des pôles de développement. » Au même titre que les pôles urbains. Un territoire rural, c'est un pôle de développement, un territoire de projet, qu'on disait dans le développement local, qui a une capacité d'initiative sur son futur et son destin, qui a une capacité de construction, des énergies qui lui sont propres, et pas uniquement, qui ne dépendent pas uniquement de l'énergie urbaine qui reviendra. Et qu'il faut organiser, par contre, des interrelations fortes entre ces pôles de développement ruraux et les pôles urbains, si on veut avoir un vrai moteur de cohésion territoriale qui génère de la compétitivité et qui porte haut les principes du développement durable. Voilà ce que nous avons défendu. On a retrouvé un écho favorable à l'échelle de la Commission. Un écho tout à fait favorable, au point que Dirk Kanner, le directeur général actuel de la DG Régio, a installé un groupe de travail sur la cohésion territoriale, où on parle d'interrelation entre le rural et l'urbain. Au départ, on était drôlement regardés quand même, parce que EuroCity y voyait un troublion qui allait capter des moyens alors qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de moyens. Mais les aires métropolitaines nous disaient ça nous intéresse, cette expression-là, parce que ça permet d'organiser des choses. Et EuroCity aujourd'hui revient dans la logique en disant ça nous intéresse aussi. Et il y a une reconnaissance affichée maintenant que les territoires ruraux sont des pôles de développement. Ensuite, qu'il y a une nécessité de l'interrelation entre le rural et l'urbain. Et qu'il y a cette réalité donc d'existence qui fonctionne. On ne parle pas uniquement de masse critique. On ne parle plus d'impératif de masse critique. Maintenant, tout ça, il va falloir l'inscrire. J'ai fini. Hein. Maintenant, tout ça, il va falloir l'inscrire dans des faits et dans des politiques. Et là, il est nécessaire de faire remonter tout ce qui se fait, l'histoire de tout ce qui a pu se faire dans différents endroits et montrer que c'est un véritable moteur pour le futur, mais aussi un moteur qui va convaincre les acteurs des territoires que c'est possible d'agir dans ce contexte de crise où les uns et les autres ne voient plus forcément où fonctionner.